On ouvre notre émission cette semaine de Tioc à Tioc avec Christophe Dicaro. Bonjour Christophe.
Bonjour, bonjour.
Alors Christophe, comment je pourrais vous présenter Christophe? Vous êtes connu, elle m'a dit, internationalement en Corsica, à la fois théâtre pas mal, parce qu'avec la compagnie de José Massé, le théâtre Expression, vous avez beaucoup joué. Vous êtes aussi prof de théâtre, vous avez un groupe à Fouriagne. Vous êtes un passionné de philosophie et puis vous êtes enseignant.
Oui. Tout. Là, on fait... Il y a une palette assez large, on va dire. Une palette assez large. Alors, comment me présenter? Par quel métier, je dirais, me présenter? Les trois, on va dire, la philosophie, le théâtre et l'histoire, hein, que j'enseigne aussi également, sont liés, hein, finalement, la démarche est philosophique dans tout ce que j'entreprends, on va dire.
C'est vrai?
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire, la démarche est philosophique dans tout ce que j'entreprends?
Alors, c'est une belle question. En fait, il faut remonter à l'origine, hein, de ce qui m'a formé, hein. On va dire, je me suis révélé à moi-même aux alentours de mon année de seconde ou seconde première terminale, où je découvre la philosophie, le théâtre, l'histoire, l'amour aussi, une première petite amie qui a bouleversé pas mal de choses.
Vrai, ouais.
Ah oui.
Et c'est important, ça, les premières histoires.
Oh, c'est très important, hein, très très important, mais qui était une passionnée de théâtre que j'ai suivie à cette époque-là.
C'est elle qui vous avait un peu emporté dans la passion du théâtre. Et d'autres passions aussi.
Oui, c'est ça. J'étais passionné sans le savoir, en fait. Et parfois, il suffit de suivre, hein, de suivre aveuglément et de dire oui. J'ai toujours la référence du film avec Jim Carrey, Yes Man. Donc j'ai dit oui, tu veux jouer, tu veux faire du théâtre. Mais voilà, jouer le Malade Imaginaire.
Ah, carrément.
Avec Madame Canazzi, Dominique.
Dominique Canazzi, d'accord.
Oui. Voilà que je me retrouve à jouer Argan, à Sant'Angelo, devant une salle comble, 100 personnes. Moi, je n'avais jamais joué de ma vie. J'étais dans les coulisses, j'étais pétrifié. Et jusqu'au moment où on vient me toucher l'épaule, on me dit « Christophe, c'est à toi. »
Faut y aller.
Faut y aller. Alors, me voilà sur scène, jouer cette longue tirade. Je tremblais, et puis à un moment donné, ma langue fourche, tant un rire, et puis un autre, et puis un autre, et là j'ai compris qu'il y avait une interaction entre la scène et le public. Alors là, à partir de là, ça a été
terminé. Rôle d'Argan, il est génial.
Ah, il est extraordinaire. Oui. Le rôle d'Argan, il est extraordinaire.
Extraordinaire.
C'est ce rapport avec sa servante Toinette, qui était à cette époque-là ma petite amie.
Ah oui, d'accord.
Donc un rapport ultra passionné, vraiment, vraiment haut en couleur. C'était vraiment, voilà, une pièce qui finalement, eh bien, a fait que depuis, je ne suis plus redescendu de scène. Plus jamais. J'ai dû jouer, en espace de 15 ans, j'ai dû faire 25 ou 26 pièces de théâtre. En professionnel, en amateur, en semi-pro. J'ai fait des stages. Je suis parti à l'étranger faire du théâtre. À l'époque, c'était avec le comité Olive, le CCU, hein, le Centre Culturel Universitaire.
De Corté.
Avec Jean-Pierre
Lidiger.
Voilà. Et c'était Jacques Thiers à l'époque, hein, qui avait plus ou moins organisé c'était joint à un dispositif. Alors j'ai eu l'occasion de faire du théâtre avec des Croates, avec des Serbes, avec des Portugais, des Italiens.
Un super mélange.
Ah, ça a été extraordinaire.
Il y a les enfants aussi dans le théâtre. Vous avez un groupe?
Oui.
D'élèves? Il y a des adultes, des enfants?
Des adultes, des enfants. Alors ça va tous les âges, hein, on va dire de 5 ans à peu près jusqu'à l'infini. Voilà.
On parle de philosophie avec vous. Vous avez le café...
Café Philo de Bastia.
Café Philo, oui. Le fameux Café Philo. Alors c'est en Haute-Corse, c'est à Bastia.
Oui.
Vous vous réunissez dans d'autres lieux en Corse, pas?
Non, non. On s'est réunis, hein, déjà. J'en ai fait quelques-uns à Ajaccio, hein, avec à l'époque, hein, au bistrot du cours, à l'université aussi, j'en fais quelques-uns à Corté, à l'université, hein, là où je travaille également, où j'enseigne la philosophie du langage et la philosophie de l'histoire. Et où je gère également l'atelier d'éloquence.
C'est quoi l'atelier d'éloquence?
Atelier d'éloquence, c'est apprendre à se servir de ce qu'on est pour s'exprimer et finalement se réaliser face à un public.
Être plus sûr de soi?
Oui.
Dans la communication, c'est ça?
C'est ça.
Qu'est-ce que vous leur donnez comme clé? C'est vrai, il y a la timidité,
Oui. Oui. Oui, alors les clés, c'est beaucoup la confiance. Alors, mon expérience de philosophe, enseignant philo et de théâtre, eh bien, sont complémentaires. En fait, ça s'incarne dans l'homme. Et l'éloquence, c'est quelque chose qui doit être très profonde et très... On va chercher au fond de soi, en fait, hein, quand on a des choses à dire. Bon, ça peut être la présentation d'un exposé, Mais lorsqu'on est à l'université, souvent ce sont des mémoires qu'on choisit, des thèses. Donc ça doit être quelque chose qui nous fait vivre, nous fait tenir. Et la manière de s'exprimer doit emporter un public. C'est comme en théâtre, sauf que là, on est dans des dimensions qui sont peut-être plus profondément politiques au sens large du terme, ou au sens noble du terme, puisque notre parole, elle a, à ce moment-là, un impact direct sur l'auditoire. Elle doit avoir un impact direct.
Alors la philosophie, il y a toutes sortes de sujets et de questions que vous lancez. Ça repart d'ailleurs, le Café Philo, ça repart quand?
Le dernier vendredi de janvier.
De janvier, donc on est invité, on peut vous rejoindre.
Oui.
Alors ce sera à la fin du mois, donc
c'est ça. C'est à la fin du mois, c'est à 18h30 au Café des Palmiers à Bastia.
À Bastia, et on peut vous rejoindre, soit participer, soit écouter d'ailleurs. Et c'est quoi la prochaine question posée?
Alors, pour le moment, on est encore en train d'y réfléchir. Il se peut qu'elle soit basée sur autour de l'inconscient, de la conscience. Voilà, on est en train de réfléchir.
Vous êtes dans ces thèmes-là?
Oui, peut-être pour le mois de janvier.
Il y a des thèmes qui vous ont vraiment touché, Christophe, que vous avez lancé. Et puis vous vous êtes dit, ça y est, ça prend bien, ça plaît. Des sujets qui vraiment...
On a eu des beaux cafés philo. Lorsqu'on a posé des questions relatives... souvent, ce sont des questions très contextualisées. Lorsqu'on parle de religion, par exemple, je n'ai plus l'intitulé exact de ce café philo, la question exacte, mais je me souviens qu'on avait eu à peu près 120 ou 130 participants.
Sur le café philo.
Sur le café philo. Pareil, lorsqu'on parle de politique, lorsqu'on va engager la notion d'État, de société, l'art aussi fédère beaucoup, des questions sur l'art. Quand devient-on un artiste? Comment on peut définir qu'une œuvre est une œuvre d'art? Enfin, plusieurs questions.
C'est pas mal, ça. C'est des sujets aussi de bac, hein?
C'est aussi, oui, bien sûr, ce sont les sujets qu'on retrouve après au bac.
Donc l'art, ça plaît? La politique, ça doit être mouvementé aussi. Là, on est en pleine période. Là,
oui.
Aussi. Ouais. Peut-être que vous allez attendre un peu avant de lancer le débat politique, peut-être là, parce que...
Alors, on a quelques idées, on y réfléchit, comment pouvoir... Parce que finalement, le rôle de la philo, si on se place... moi, je suis assez, on va dire, platonicien dans l'approche. C'est-à-dire que la philosophie ne fait pas de politique. La philosophie interroge la politique, la philosophie rassemble, elle unit finalement. Si on définit, on va dire, un objectif en politique qui est le bien commun. Donc à partir du moment où on a un point central d'union, la philosophie peut rassembler et réfléchir à ce qu'est le bien. C'est quoi le bien commun? Comment définit-on la notion d'engagement en politique? Qu'est-ce qu'un citoyen? Qu'est-ce qu'être citoyen? Alors on a plein d'exemples pour ça. Mais c'est vrai que la philo se place à un autre... je dirais un autre échelon, on va dire. Elle ne fait pas de politique.
Quels sont les, je vous parliez de Platon, les philosophes que vous aimez particulièrement, vous?
Alors, j'aime les philosophes plutôt, on va dire, ascètes. Je vais vous parler des stoïciens en particulier. Le manuel d'Épictète a été, très longtemps a été, mon livre de chevet. C'est un livre très court, mais qui apprend à se séparer de ses illusions. C'est un peu comme Épicure qui va nous dire on doit se détacher des fausses idées sur la mort, des fausses idées sur les dieux, des fausses idées sur nos besoins finalement, pour redevenir maître de soi. Et ce sont les philosophes, en fait, qui, en permanence, nous invitent à la maîtrise de nos pulsions, de nos passions, de ne pas être esclaves, par exemple, de ses idéaux, savoir garder la tête froide, mais en même temps savoir rêver, savoir être créatif. En fait, comment passer de l'idée en général au concept, sans se laisser dominer par l'idée, qui finalement nous déracine totalement, et sans rester à 100% que dans le concept, finalement qui nous fait perdre eh bien, l'idée, le rêve et l'imaginaire.
Trouver un équilibre.
Trouver l'équilibre, le juste milieu en fait, ou une juste mesure qui permet, encore une fois, vous voyez que tout s'inscrit à l'homme d'être éloquent, à l'homme de s'incarner, à l'homme d'avancer, de marcher. C'est un petit peu cet homme de Vitruve qu'on va avoir chez Léonard de Vinci. Qu'est-ce que cet homme en pleine possession de ses moyens qui finalement peut tout entreprendre à partir du moment où il est dans la justesse de ses actions, de ses actes, de ses pensées, sans aller vers les excès et qui peuvent engendrer parfois du mal, de la souffrance, des douleurs, un mal-être, etc.
C'est beaucoup de sagesse. Alors qu'est-ce que vous pensez des philosophes grecs? On sait que Sénèque, il a été quand même beaucoup en Corse, par exemple, dans la tour... dans le Cap Corse, Tour de Nantes.
Oui.
Il devait avoir un mauvais souvenir de la Corse, lui, par contre.
Bah, c'est sûr que son rapport, son rapport ici à la Corse n'était pas, on va dire qu'il n'était pas touristique. Mais finalement, vous voyez que dans même les plus grandes, dans les épreuves, finalement, c'est une épreuve, on traverse tous des épreuves. En fait, il ne tient qu'à nous d'en tirer profit. Et tout ce qui est négatif, comme ici, on fait référence à Sénèque et à son enfermement dans la tour.
Et du coup, ça nous l'a rendu antipathique, nous, Sénèque.
Oui.
Alors que c'était un grand philosophe.
Oui. Oui, ben forcément.
C'est vrai, Christophe, oui. Vous êtes d'accord.
Oui.
Il avait apporté beaucoup de choses. Et puis un jour, ils s'en sont débarrassés.
Oui.
Et nous, on a toujours dit Sénèque, voilà.
Oui, je prends pour un autre. Non, mais vous voyez comment, finalement, les philosophes, généralement, jouent un petit peu les mouches du coche. En fait, ils dérangent un petit peu. Si un philosophe qui va au bout de sa démarche, c'est quelqu'un qui dérange. Socrate, on l'a condamné à boire la ciguë. Si on peut considérer que Pythagore était philosophe, eh bien, on a essayé on a fait la chasse aux pythagoriciens à une époque. Enfin, vous voyez que...
Ils étaient considérés un peu comme des sorciers, des sorcières. Enfin, pas tous. Galilée aussi, il a eu son compte.
Oui, bah oui. Vous savez, dès que vous sortez des conventions et des règles établies et que vous portez finalement une autre idée ou un autre
regard.
Une idée nouvelle, souvent vous êtes montré du doigt. Le génie au départ, mais c'est pour ça, je pense que beaucoup de génies ne sont reconnus qu'après leur mort parce qu'ils dérangent tout le monde. Imaginez, en fait, il y a beaucoup de travail et un peu de génie. C'est Nietzsche qui va dire que c'est la fumisterie de la masse de qualifier de quelqu'un de génie. Cette personne qui fait les choses bien nous remet tellement en question sur nous-mêmes. On se dit, moi je suis pas capable, ou moi il faudrait que je me mette au travail, je n'ai pas envie. Alors qu'on préfère dire, c'est un génie, plutôt que de se remettre en question. Et le philosophe,
soi-même.
Et dans ces cas-là, les philosophes vont chercher ces personnes presque jusqu'à devant leur porte et leur dire, non mais attends, tu vois pas que c'est toi qui ne fait rien, tu ne te prends pas en main, tu jettes la pierre à tout le monde, tu ne te remets pas en question, sors un peu de chez toi, de ton confort, et vis, vous imaginez, quand vous êtes confortablement installé, quelqu'un qui vous dit, prends-toi en main et fais-toi violence, on a plutôt envie, peut-être, de le sortir de notre vue. C'est ce qui s'est passé pour Socrate en particulier.
Ils ont morflé, quoi.
Oui,
voilà.
Oui. On n'est pas révolutionnaire quand on lit Platon.
Ça a été la reconnaissance, mais bien plus tard.
Voilà, après, mais ça reste quand même une reconnaissance de salon, je dirais, puisqu'on le lit toujours, on est plutôt assis et on réfléchit dans notre... À part, c'est... va au café philo ou que finalement on fait évoluer un petit peu notre pensée, on se frotte à d'autres pensées puisque visiblement, souvent on a des idées arrêtées, mais parce qu'on les met pas en contradiction, on les met pas en rapport avec quelqu'un qui pense différemment de nous. Et puis finalement,
la confrontation.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On est absolument dans le concept et on oublie que notre façon de penser peut évoluer par de la créativité, par de la confrontation, par de la discussion. Du coup, il nous manque une partie. C'est la partie de l'échange.
Enfin, tout ça, c'est riche. Et vous, personnellement, qu'est-ce que ça vous apporte, Christophe ? La philosophie, ça a changé votre vie ?
Moi, la philosophie, en fait, est-ce qu'elle a changé ? Je pense qu'elle a fait partie très tôt de ma vie. Très tôt. On le sent, quand on est petit, ce sont des choses qui vous attrapent comme ça. Et vous êtes assis et puis vous mettez à rêver pendant des heures. Souvent, même petit, 7-8 ans, je restais assis sur un rocher, puis je regardais la mer, puis je pensais, ma pensée partait très loin, jusqu'à ce que je découvre les livres, la littérature, etc. Donc ma pensée s'est enrichie un petit peu de tout ce que j'ai lu, mais la philosophie, en fait, elle ne m'a jamais quitté. Voilà, c'est comme ça, on a tous une personnalité, une singularité, puis elle en a fait partie.
Vous avez une citation pour conclure d'un philosophe ou de Socrate ou quelqu'un que vous affectionnez ?
Oui, la première chose qui vient à l'esprit, c'est une citation de Kant dans « Qu'est-ce que les Lumières ?» où il va dire « Aie le courage de te servir de ton propre entendement ». Ou alors, quand il va nous dire aussi, puisque toujours dans la même œuvre, va nous dire, quand il définit les lumières, c'est... En gros, la sortie de l'homme de l'état de tutelle dont il est lui-même responsable. Autrement dit, on a tous des œillères, alors qu'on peut le faire nous-mêmes, on se dit que d'autres le feront mieux que nous, du coup.
Esclaves de nous-mêmes.
C'est ça.
Il faut briser les chaînes. Merci, en tout cas.
Merci à vous.
Dicaro. On va sur votre site Facebook.
Oui.
Café Philo.
Oui,
sur votre
Café
site
Philo, ou sur mon profil aussi.
À bientôt.
À bientôt. Au revoir.